Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 4 août, en direct de Washington. Au micro, Morgane Guériec et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, le sommet États-Unis-Afrique débute aujourd'hui à Washington. Presque tous les chefs d'État d'Afrique sont invités dans la capitale américaine. Mais sur le continent, on reste perplexe.
Il n'y aura pas de président courageux qui vont regarder Barack Obama yeux dans les yeux et lui dire les quatre vérités parce que les Occidentaux sont en train de piller nos ressources.
Épidémie d'Ebola, Alpha Condé, le président guinéen, fait l'état des lieux.
Tant qu'il y a un seul cas d'Ebola dans nos régions, on ne peut pas dire qu'on a triomphé. Donc, il faut que ça soit une bataille d'ensemble de toute la CEDEAO. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une bataille commune pour mettre fin à l'Ebola dans tout le pays.
Au moins 22 personnes ont été tuées dans une journée de combat à Tripoli.
Israël a annoncé une trêve humanitaire de 7 heures aujourd'hui sur la majorité du territoire de Gaza, mais des raids ont été rapportés.
Au moins 44 personnes ont été tuées dimanche dans des raids du régime syrien. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant, le journal.
Le sommet États-Unis d'Afrique débute donc aujourd'hui à Washington. Le président américain Barack Obama accueille une cinquantaine de chefs d'État africains dans la capitale américaine. La coopération économique devrait dominer cette rencontre de trois jours. Les États-Unis s'apprêtent à annoncer des milliards de dollars d'investissement en Afrique. Un milliard de dollars devrait être destiné aux transactions commerciales et au maintien de la paix. Plusieurs milliards devraient être attribués aux programmes alimentaires et énergétiques. Sécurité, bonne gouvernance et l'épidémie d'Ebola devrait également être au cœur des discussions. Qu'attendent les Africains de ce sommet ? Éléments de réponse en seconde partie de cette émission.
Épidémie d'Ebola, dans une intervention hier en compagnie de plusieurs autres dirigeants africains, le président guinéen Alpha Condé a fait l'état des lieux dans son pays où, dit-il, la situation est différente par rapport au Libéria et à la Sierra Leone grâce à une forte assistance internationale.
Tant qu'il y a un seul cas d'Ebola dans nos régions, on ne peut pas dire qu'on a triomphé. Donc, il faut que ça soit une bataille d'ensemble de toute la CEDEAO, parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de malades au Sierra Leone, au Libéria, votre même si en Guinée, on a totalement mis fin à la maladie, si ce n'est pas fini au Libéria et à Sierra Leone, évidemment, il y a des risques de parce que c'est les mêmes populations. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une bataille commune pour mettre fin à l'Ebola dans tout le pays. Mais il faut aussi que le monde prenne cela comme le problème de l'humanité entière et que chacun nous vienne en aide, et non pas de prendre des mesures qui effraient les populations. Le paludisme tue 1000 fois plus que l'Ebola, mais aujourd'hui, il y a une campagne national qui ne correspond pas à la réalité. C'est pourquoi je suis venu pour dire exactement les mesures que nous sommes en train de prendre pour mettre fin à cette maladie.
Le président guinéen Alpha Condé.
Et toujours au sujet de l'épidémie d'Ebola, sachez qu'un deuxième ressortissant américain ayant contracté le virus au Libéria devrait rentrer aux États-Unis demain. Nancy Wrightball travaillait dans une clinique de Monrovia. Elle rejoindra à l'hôpital de l'université Emory à Atlanta le docteur Kevin Brantley qui a contracté le virus dans la même clinique au Libéria.
Au moins 22 personnes ont été tuées dans une journée de combat à Tripoli entre deux milices rivales cherchant à prendre le contrôle de l'aéroport international de la capitale libyenne. Henri Francisque.
Le gouvernement provisoire de la Libye a annoncé dimanche le bilan des affrontements dans la ville entre les milices islamistes de Misrata et de Zintan, des combattants qui pourtant se trouvaient côte à côte en 2011 pour renverser le régime dictatorial de Muammar Kadhafi. Le gouvernement a déclaré que les groupes lourdement armés avaient bombardé des cibles civiles. Tout dernier épisode d'une série qui a fait plus de 200 morts au cours des dernières semaines. Les bombardements ont mis le feu à 8 énormes dépôts de pétrole. En fait, le pays est confronté à l'une des pires violences depuis la chute de Kadhafi, ce qui a contraint plusieurs pays à évacuer leurs diplomates et fermer leur ambassade. Alors que les combats se déroulaient samedi à l'aéroport de Tripoli, le Parlement nouvellement élu a tenu sa première réunion dans la ville orientale de Tobrouk. Plus de 150 députés se sont réunis sous haute sécurité, mais la plupart des absents étaient des islamistes. Donc, les divisions politiques semblent persister.
Explosion hier dans la capitale somalienne. Selon les autorités, 3 femmes sont mortes et au moins 7 autres personnes ont été blessées. Les victimes sont des employés de la voirie. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat, mais les insurgés d'Al-Shabaab ont récemment multiplié leurs attaques à Mogadiscio.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Proche-Orient, 10 Palestiniens ont été tués dans des raids israéliens aujourd'hui sur la bande de Gaza. C'est ce qu'indiquent les services de secours cités par l'AFP. Par ailleurs, l'État hébreu a annoncé une trêve humanitaire de 7 heures aujourd'hui sur la majorité du territoire de Gaza. Le cessez-le-feu intervient entre 7h et 14h temps universel, sauf au sud de l'enclave, précise un communiqué de l'armée. Cette décision intervient alors que l'État hébreu fait à nouveau face à l'indignation de la communauté internationale suite à une frappe qui a tué au moins 10 Palestiniens dimanche dans une école de l'ONU. La frappe aérienne visait apparemment 2 suspects à moto, selon un porte-parole militaire. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et d'autres dirigeants mondiaux ont vigoureusement dénoncé cette attaque. Ce bain de sang fait suite à l'annonce d'un retrait partiel de l'armée israélienne de Gaza, nous dit l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Scott Bob.
On s'est vu se déplacer quelques unités terrestres des forces israéliennes, mais ils ne sont pas allés loin. Ils restent toujours très près de la frontière entre Gaza et l'Israël. Entre-temps, les escarmouches continuent et les attaques aériennes continuent. L'offensive israélienne continue malgré l'annonce samedi soir que, en principe, ça arrivait à terme.
Revenons sur cette frappe aérienne dans une école dirigée par l'ONU à Rafah dimanche.
Ce n'est pas la première fois, c'est la troisième ou quatrième fois que ça arrive. D'après les autorités israéliennes, c'était quelque chose des milices à côté ou tout près. Ils ont tiré dessus et ça a atteint par erreur. Ils disent qu'il y a une investigation en cours, mais comme beaucoup de ces investigations, on verra si ça aboutit à quelque chose.
Scott Bob, joint à Gaza par Chérubin Dorsil.
Au moins 44 personnes ont été tuées dimanche dans des raids du régime syrien sur 2 villes tenues par les rebelles et dans des attaques d'insurgés sur la capitale, Chérubin Dorsil.
L'information qui a été confirmée de sources indépendantes précise que l'aviation syrienne a frappé Douma et Farbatna, 2 villes tenues par les rebelles près de Damas. 32 personnes, dont des femmes et des enfants, ont péri dans ces raids, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. Alors que le régime bombarde les localités rebelles autour de la capitale, des obus tirés par les rebelles sont tombés sur des quartiers de Damas, faisant 12 morts, selon l'agence officielle Sana. 23 autres personnes ont été blessées dans ce que le pouvoir qualifie d'attaque terroriste sur les quartiers de Chagour, Bostan al-Dour et Dawila, dans le sud de la capitale. Par ailleurs, les rebelles syriens ont tué 10 soldats libanais dans un raid transfrontalier. C'est l'incident le plus grave du genre depuis le début de la guerre civile en Syrie il y a 3 ans. Les affrontements d'hier dans le village d'Arsal étaient liés à la détention par l'armée libanaise d'Imad Ahmad Joma, membre présumé du front Al-Nusra, un groupe lié à Al-Qaïda et l'un des plus puissants dans la lutte contre le président syrien Bachar al-Assad.
En Irak, les djihadistes de l'État islamique élargissent leur territoire. Hier, ils se sont emparés des villes de Zoumar et Sinjar, ainsi qu'un champ pétrolier préalablement contrôlé par les Kurdes près de Mossoul. Selon un porte-parole onusien, 200 000 résidents de Sinjar ont pris la fuite. Rappelons que les islamistes contrôlent Mossoul et Tikrit, dans le nord de l'Irak, où ils ont créé un califat près de la frontière syrienne.
Le bilan s'alourdit dans le sud de la Chine suite au séisme d'une magnitude de 6,1 qui s'est produit hier. L'agence de presse officielle Chine Nouvelle fait état d'au moins 381 morts et près de 2000 blessés dans la province du Yunnan.
Dans l'est de l'Ukraine, violents combats dimanche entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes. Selon des responsables locaux à Donetsk, il y a eu 6 morts. Par ailleurs, l'agence Reuters fait état de 3 morts dans la ville de Lugansk. Entre-temps, les enquêteurs internationaux ont fouillé pour une 3e journée le site de l'accident du vol 17 de Malaysia Airlines. Leur mission pourrait s'étendre sur au moins 3 semaines, a déclaré le chef de la mission policière hollandaise sur les lieux du crash.
Et puis l'Europe commémore aujourd'hui le centenaire de l'invasion de la Belgique par les troupes allemandes. 83 pays engagés dans la Grande Guerre ont été invités à Liège pour cette commémoration par le roi des Belges. La ville a été placée en état de siège pour assurer la sécurité des 12 chefs d'État attendus, dont le roi Felipe VI d'Espagne, les présidents français et allemands François Hollande et Joachim Gauck, et le prince William, représentant du Royaume-Uni.
Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission. Ouverture ce lundi du sommet États-Unis-Afrique à Washington. C'est la première fois qu'un président américain invite presque tous les chefs d'État du continent dans la capitale américaine. Sécurité, bonne gouvernance, les thèmes ne manqueront pas. Qu'attendent réellement les Africains de ce sommet ? Élément de réponse avec Nicolas Pineau.
Oui, cette rencontre est historique, quand même, à le rappeler Barack Obama. L'objectif est de renforcer les relations entre l'Amérique et l'Afrique. Washington considère le continent africain comme un continent d'avenir et le sommet a pour thème « Investir dans la prochaine génération ». Après des décennies de diagnostic des maux africains, il y a une forte attente pour que des actes concrets soient posés lors de ces trois jours. Oluwakemi Okeniodo est la directrice exécutive de la Clean Foundation au Nigeria.
On attend des actions concrètes pour le continent africain et qu'ils définissent des zones d'action prioritaires, que les leaders africains s'engagent et qu'on contrôle les résultats des engagements pris à Washington.
L'administration Obama est fortement attendue lors de ce sommet. Le président américain a déçu les Africains et s'est beaucoup appuyé sur la politique de ses prédécesseurs. Ces derniers avaient initié des programmes emblématiques, Bill Clinton pour l'AGOA et les échanges commerciaux, ou George W. Bush pour le PEPFAR dans la lutte contre le sida. Joseph Ziegel est le directeur de recherche du Centre d'études stratégiques de l'Afrique.
Beaucoup d'Africains avaient plein d'espoir que les États-Unis feraient beaucoup plus pour le continent. Et ça n'a pas été le cas. Les États-Unis ont maintenu les politiques initiées dans le passé. D'un point de vue américain, l'administration ne veut pas mettre plus d'argent avant d'être sûr que ces ressources seront utilisées efficacement pour le bénéfice de la population.
Six pays africains comptent parmi les 10 économies qui ont la plus forte croissance dans le monde. Le continent regorge de promesses qui tardent à se concrétiser malgré les aspirations de la jeunesse pour l'emploi et l'alternance politique. Chris Fumunyo du National Democratic Institute.
Chaque fois où vous vous trouvez dans une conférence, c'est très facile de diagnostiquer les défis du continent africain. Même à l'intérieur des différents pays, les gens en parlent, la société civile en parle, les élus en parlent. Mais ce qui me dépasse, c'est notre incapacité à trouver des solutions. Alors que très souvent, ce n'est pas forcément la capacité matérielle qui manque, mais c'est la volonté politique qui fait défaut. Et c'est ça qui retient un peu le développement économique et même politique de notre continent.
Le sommet États-Unis-Afrique prendra fin mercredi dans la capitale américaine.
Parmi les invités à ce sommet, le Niger qui sera représenté par son président Mamadou Issoufou. Qu'attendent les Nigériens de ce sommet ? Abdoul Razak Idrissa, notre correspondant sur place, leur a tendu le micro.
Il faut relever que c'est une première, ça serait un sommet historique. Parce que c'est pour la première fois qu'un sommet de telle envergure va réunir les différents chefs d'État de l'Afrique et l'Amérique sous l'égide du président américain Barack Obama. Mais nous, en tant que citoyens africains, nous nous attendons en ce qui concerne les conclusions, rien. Ça serait d'une rencontre, d'échange et dans lequel la vérité ne sera pas dite dans ce sens où vous avez des chefs d'État qui sont en train de tordre de coups à la démocratie, qui sont en train de remettre en cause tous les acquis démocratiques arrachés de toute lutte dans leur pays. Et aujourd'hui, ils vont prendre part dans ce sommet. Encore qu'il n'y aura pas de président courageux qui vont regarder Barack Obama yeux dans les yeux et lui dire les quatre vérités. Parce que les Occidentaux sont en train de piller nos ressources. Les Occidentaux sont en train de malmener l'Afrique. Et je pense que ce sommet ne sera pas différent d'autres sommets comme sommet France-Afrique, comme sommet Chine-Afrique, en termes d'aboutir à une conclusion concrète de nature à faire avancer l'Afrique, à faire développer l'Afrique, je ne penserai pas que ces sommets puissent apporter des changements et des remèdes aux maladies que vive l'Afrique.
Un bon citoyen du continent africain, particulièrement un bon citoyen du Niger, nous espérons, nous souhaitons que ce sommet soit vraiment une rupture avec le passé, que ce soit un sommet suffisamment exploité par nos chefs d'État afin de défendre les intérêts des peuples africains et de montrer à la face du monde que l'Afrique, dorénavant, elle traite des questions de manière souveraine, de manière tout à fait libre et indépendante. Il n'y a pas de complexe d'infériorité comme on le constate dans le cadre de la France-Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondjouti.
Le président guinéen Alpha Condé est lui aussi à Washington pour participer au Forum États-Unis-Afrique. Un voyage qui fait beaucoup parler dans son pays à cause de l'épidémie d'Ebola et la bousculade qui a fait 33 morts à Rogbané. Correspondance de Zakaria Camara.
Le président Alpha Condé a quitté Conakry vendredi soir pour Washington, 3 jours après le drame de Rogbané qui a fait 33 morts. Son voyage fait débat de la capitale.
Je pense bien qu'il a beaucoup fait. Non seulement il a demandé la démolition de ses sites, et en plus il a pris assez de dispositions nécessaires pour que pareil drame ne se reproduise plus. Et surtout il a demandé que justice soit faite le plus tôt possible aussi.
Il n'allait penser qu'à nous les Guinéens avant de repartir ailleurs d'abord, parce qu'il sait très bien qu'il y a ces drames qui passent chez nous ici. Il y a deuil national.
Lui-même il s'est déplacé en personne d'aller jusqu'à Rogbané. Donc ça seulement c'est pas petit.
Il pouvait mettre peut-être rien d'avion spécial à contribution juste après la période de deuil pour faire son voyage. Donc pour moi, il devrait vraiment observer ces deuils-là.
Selon le communiqué final du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union du fleuve Manon qui vient de se tenir à Conakry, le président guinéen a été mandaté par les chefs d'État libériens et sierra-léonais de porter le message de l'Union relatif à la fièvre Ebola qui a fait plus de 700 morts en Afrique de l'Ouest. Mais ici à Conakry, chacun fait son analyse du séjour américain du président Condé.
La présidente du Libéria, qui avait autant d'intérêt d'aller aux États-Unis que M. Alpha Condé, elle a choisi de ne pas aller. Le Léonais a fait la même. Ça, c'est là où le leader montre, n'est-ce pas, son attachement à son peuple.
Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Tous les pays du monde cherchent aujourd'hui à se rapprocher des États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Alors si notre pays, s'il contribue à rapprocher notre pays des États-Unis, je pense que c'est normal.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Nous partons maintenant en République démocratique du Congo. Le projet de révision de la Constitution fait polémique. Soutenu par la majorité présidentielle, les partis d'opposition s'y opposent catégoriquement, estimant qu'elle donnera au président Joseph Kabila la possibilité de briguer un autre mandat. À Goma, dans la province du Nord Kivu, la coalition des partis politiques de l'opposition a commencé à mobiliser la population pour freiner cette initiative. Reportage sur place de notre correspondant Primo Pascal Rudaïkwa.
Cette mobilisation a débuté le week-end ici à Goma et elle va s'étendre sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa est de l'ECID, un parti politique de l'opposition.
La constitution du 18 février 2006 que nous avons adoptée par référendum est fondée sur un certain nombre de valeurs capitales, des valeurs fondamentales de la République que nous devons défendre. Par exemple, l'article 220 qui dit que est interdite à toute révision constitutionnelle la forme républicaine de l'État. C'est dire que la RDC ne peut pas devenir une monarchie comme le Maroc. Non, c'est interdit à toute révision constitutionnelle. Parmi les matières interdites à toute révision, il y a la durée et le nombre des mandats du chef de l'État.
La majorité présidentielle estime pourtant que la révision de la Constitution est légale. Maître David Kamuha est le secrétaire général adjoint du BUREC, un parti politique de la majorité présidentielle.
Il faut que le peuple comprenne que la révision constitutionnelle n'est pas un tabou. À travers le monde entier, dans tous les pays du monde, toutes les constitutions prévoient toujours leur possibilité de révision. Et dans notre pays, notre constitution est claire puisque la révision est prévue à l'article 218, 219 et 220. Ça signifie que si aujourd'hui il faut réviser la constitution, il ne s'agit pas d'une création de la majorité présidentielle. Dire que la révision c'est une faute, cela revient à faire la tricherie politique.
Pour le parti cher à Étienne Tshisekedi, la majorité présidentielle n'a aucune raison de s'éterniser au pouvoir. Rubens Mikindo est élu de PES Nord-Kivu.
Il ne faut pas énerver cette constitution. Il ne faut pas énerver l'article 220. Il ne faut pas énerver autant d'articles. Parce que tous les articles qui ont été cités ici, ce sont des articles qu'on veut justement toucher pour rester au pouvoir. Les gens qui ont échoué, ils veulent rester. Ils devaient accepter qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas pu réaliser leurs fameux 5 chantiers. Parce qu'on ne peut pas moderniser quelque chose qu'on n'a pas réalisé. Mais tout ça, ce sont eux qui ne comprennent pas.
Maître David Kamuha invite plutôt l'opposition à ne pas distraire le peuple congolais.
Est-ce que lorsqu'on veut poser un acte légal, on peut dire que c'est pour s'éterniser au pouvoir? Il faut que nos amis de l'opposition aient le courage d'affronter plutôt les échéances électorales qui viennent. Les élections locales, qu'il s'agisse des élections provinciales ou même présidentielles, puisque ça viendra, c'est là les combats et le peuple doit être prêt à aller vers les élections que de nous distraire dans des discussions qui ne valent pas la peine.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, place au sport avec Chérubin Dorsil. Bonjour Gabi.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
En football, on connaît maintenant la composition des groupes de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015.
Le Nigeria, champion de la dernière édition en 2013 face aux étalons du Burkina Faso, affrontera l'Afrique du Sud, le Soudan et le Rwanda dans le groupe A. Le groupe B sera composé du Mali, de l'Algérie, de l'Éthiopie et du Malawi. Groupe C, Burkina Faso, Angola, Gabon, Lesotho. Groupe D, Côte d'Ivoire, Cameroun, République démocratique du Congo, Sierra Leone. Groupe E, Ghana, Togo, Guinée, Ouganda. Groupe F, Zambie, Cap-Vert, Niger, Mozambique. Groupe G, Tunisie, Égypte, Sénégal, Botswana. Les matchs auront lieu entre septembre et novembre de cette année et les deux premiers de chaque groupe, ainsi que le meilleur troisième, auront leur billet pour la CAN 2015 au Maroc, bien sûr.
Alors, dans le cadre du troisième tour préliminaire qui précède la phase de poule de cette CAN 2015, quels sont les résultats du week-end, Gabi?
D'abord, samedi, le Bénin s'est incliné 1-0 face au Malawi. Le Malawi est qualifié, comme nous l'avons dit. Le Rwanda a battu le Congo par 2-0. Les Rwandais sont qualifiés. Match nul 1-1 entre le Botswana et la Guinée-Bissau. Botswana qualifié. Annulation du match Seychelles-Sierra Leone. Sierra Leone est qualifié par forfait. Hier, le Kenya et le Lesotho ont eu un score vierge à Nairobi. La Tanzanie a baissé pavillon 2-1 face au Mozambique et l'Ouganda a fait l'essentiel 1-0 face à la Mauritanie.
Le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire fait appel à quelqu'un qui l'avait aidé à remporter la CAN 2012.
Hervé Renard avait à ses côtés Patrice Baumel quand il dirigeait la sélection zambienne vers la victoire en Coupe d'Afrique il y a 2 ans. Maintenant que Renard a été appelé à remplacer Sabri Lamouchi à la tête des éléphants, le duo va être reconstitué. En effet, Baumel, qui était devenu sélectionneur des Chipolopolo, a démissionné de son poste pour rejoindre Hervé Renard. La nouvelle a été confirmée hier dimanche par le président de la Fédération zambienne de football, Kalusha Bwalya.
Le Real Madrid renforce son arsenal défensif.
En effet, les madrilènes vont maintenant pouvoir compter sur le prodige costaricain du Mondial, Keylor Navas, comme portier. Navas a signé un contrat de 6 ans en faveur du Real Madrid, a annoncé hier le club champion d'Europe sur son site internet. Le Real n'a pas précisé le montant du transfert, mais il serait de 10 millions d'euros, selon le quotidien sportif Marca. On se souvient de ses prouesses au Brésil, où il a permis aux Ticos d'arriver jusqu'en quart de finale, cédant seulement au tir au but face à une sélection hollandaise, pourtant comptée parmi les favorites du tournoi. À 27 ans, Keylor Navas évolue à Levante, où il a passé les 2 dernières années. Voilà pour les sports.
On passe à la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Ryan Tedder est sûrement l'homme le plus busy du showbiz ces derniers temps, le plus occupé. Mais écoute, le chanteur du groupe One Republic écrit et produit des chansons pour beaucoup d'artistes. On l'écoute ce matin dans Feel Again. Hope that you fall in love and it hurts so bad.
Ryan Tedder est connu pour avoir notamment collaboré avec Timbaland pour les singles Apologize et Marching On, avec Beyoncé pour Halo ou encore Leona Lewis pour Bleeding Love.
Oui, Morgan, un artiste talentueux. Ryan est né à Tulsa, Oklahoma, dans une famille très religieuse. Son père l'a très vite initié à la musique et il commence à jouer du piano à l'âge de 3 ans, Morgan. Il commence à chanter à l'âge de 12 ans en imitant ses chanteurs favoris, Peter Gabriel, Sting et Stevie Wonder.
Ryan Tedder, Feeling Again. Merci, Roger.
Bonne journée, Morgan.
Hope that you spend your days, but they all add up.
Roger Muntou, que vous retrouvez dans le RM Show tous les soirs à 20h temps universel. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgan Diriac au micro. Je vous souhaite une excellente journée.
pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.